L'agité du local.
Du lundi au vendredi
à 12h15 sur le 100 attends sur le
sur 107.9 101.7
sur notre radio.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'agité du local sur l'autre radio évidemment. Bonjour Claire, comment ça va?
Bonjour Marie, bonjour tout le monde. Et votre point météo, il neige ce matin. Donc là, j'ai le droit de faire un vrai point météo.
Tu as toujours le droit, mais effectivement, vous avez dû le remarquer hein, à travers vos fenêtres ou même sur les routes, partout. Il a neigé partout dans le département, alors sans doute un peu plus au nord du département, notamment au nord de Laval et un peu plus haut, mais aussi ici à Château-Gontier, hein, d'où je vous parle. En tout cas, il a neigé évidemment cette nuit sur les toits, sur les trottoirs partout. Alors hier, mea culpa, je disais qu'on ne pourrait pas faire de bonhomme de neige. J'ai vu que certains en avaient fait sur les réseaux sociaux, donc il a neigé assez pour faire des bonhommes de neige. Donc voilà, c'était... je tiens à repréciser et à m'excuser puisque c'était faux, hors des faits. On va en reparler un petit peu plus tard justement, mais on va aussi parler dans cette émission d'un voyage sans quitter sa maison. C'est ce que vous propose la compagnie DBK à travers une forme nouvelle de théâtre postal. Ce sera à découvrir du côté de Cran, vous allez voir. Avec le grand froid et la neige, on en parlait, la mission de l'accueil de jour, la porte ouverte à Laval pour les personnes sans domicile est encore plus importante. On en discute avec sa coordinatrice Rouaïda Ayash. Et puis on va continuer à plonger dans les archives de la ville de Laval pour un troisième épisode de notre feuilleton émouvant, vous l'entendrez en fin d'émission.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité. Difficile de circuler ce mercredi à cause de la neige.
Mais oui, les trottoirs sont blancs depuis cette nuit. Jusqu'à 10 cm de neige sont tombés dans le département. Conséquence, aujourd'hui, pas de transport scolaire dans toute la Mayenne, ni de ligne régulière sur le réseau Aléop. Seules les navettes express sont assurées. Et à Laval, seules quelques lignes de bus circulent. La ligne A circule normalement, mais c'est bien la seule, puisque les lignes B, C, D, E, I, J et M seulement circulent partiellement. Tous les détails actualisés sont à retrouver sur le site tulle-laval.com. Soyez prudents aussi évidemment au volant puisque plusieurs voitures se sont retrouvées dans le fossé ce matin sur la départementale 57 entre Laval et La Gravelle. Et un camion a aussi quitté la route sur la départementale 21 entre Saint-Loup-du-Dorat et Mélay-du-Maine. Légèrement blessé, le conducteur a été emmené au centre hospitalier.
Les indicateurs de l'épidémie en baisse dans la région.
Épidémie évidemment de Covid-19. Le taux d'incidence s'établit à 138,5 pour 100 000 en Mayenne. Le taux de positivité lui aussi diminue à 5,5%. Mais le nombre de personnes hospitalisées reste assez élevé. Elles sont 85 dans le département, dont 12 en réanimation.
Guillaume Garot veut accélérer la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Le député mayennais présente ce mercredi en commission à l'Assemblée nationale une nouvelle proposition de loi sur le sujet. Il veut notamment créer une police du gaspillage et faire de la lutte contre le gaspillage alimentaire une grande cause nationale. Une pétition a été lancée par le mouvement Too Good To Go en ce sens. Elle a récolté près de 30 000 signatures. Et pour réécouter notre interview de Guillaume Garot, rendez-vous sur l'autreradio.fr. Vous pouvez écouter l'agité du local du 4 février.
À Laval, saison annulée pour l'Université Populaire.
Elle avait déjà interrompu ses conférences et c'est désormais officiel. L'Université Populaire de Laval ne reprendra pas. Les droits d'inscription pourront être remboursés soit par courrier, soit en se rendant sur place à l'espace Alain Gerbeau. Le seul cycle de conférences maintenu est celui sur la réalité virtuelle, accessible dans le Laval Virtual World et sur la page Facebook de Laval Virtual.
Dans la région, comment se porte la culture dans l'économie sociale et solidaire?
Bon, sans doute, c'est une fausse question, hein, pas très bien, à cause de la crise sanitaire et des confinements. La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire vient de publier son bilan sur le sujet. Entre juin 2019 et juin 2020, la région a perdu 514 emplois culturels, soit 15% de ses effectifs. Une baisse un peu moins marquée en Mayenne, avec seulement moins 6%. Avec aussi des disparités, l'emploi baisse fortement dans la production de films, les arts du spectacle vivant, les musées, mais reste stable, voire en hausse, pour la production de téléfilms et les sondages.
le président du district de la Mayenne de football, candidat à la FFF.
Nicolas Potier figure sur la liste de Frédéric Thiriez pour les élections fédérales de la Fédération française de football. L'ancien arbitre international veut faire entendre la voix du foot amateur et des territoires ruraux. Il aura aussi pour mission l'arbitrage. Trois listes sont en concurrence, celle du président sortant Noël Le Graët, celle donc de l'ancien président de la Ligue de football Frédéric Thiriez et celle du conseiller de club Michel Moulin.
Pas de victoire, mais un match nul précieux pour le Stade Lavallois.
Les Tangos ont égalisé hier soir à quelques minutes du coup de sifflet final, un partout face à Lyon. Laval qui reste donc 8e du championnat de national.
Et Marie, on peut voyager sans bouger de chez soi.
C'est la promesse du projet théâtral Facteur Chance, proposé aux habitants de Cran, Congrié et Renazé. La compagnie DBK, basée dans le Maine-et-Loire, ne peut plus se produire sur scène avec la fermeture des salles de spectacle, vous le savez. Mais elle a imaginé un format inédit de théâtre postal, une aventure d'un mois, du 24 février jusqu'au 27 mars. Amédée Renoux, le directeur artistique de la compagnie DBK, en explique le principe.
C'est un spectacle, enfin c'est un jeu spectacle même, où en fait les gens s'inscrivent pour participer à ce jeu spectacle. Et une fois qu'ils sont inscrits, ils deviennent en fait l'héroïne de ce spectacle, le personnage principal. Et on leur propose de partir un mois en vacances et de faire un road trip en camping-car. Et pendant un mois, on leur propose surtout de raconter leur voyage. Du coup, on les accompagne pendant un mois, quasiment tous les 2-3 jours, on les accompagne pour leur raconter un peu une partie de leur voyage, dans quel pays ils sont, ce qui leur arrive, sur quelques fils rouges de ce mois de road trip de vacances. Et eux, ils vont raconter à un spectateur qui vont choisir un peu au hasard, c'est-à-dire qu'ils vont choisir une boîte aux lettres à 1 km à côté de chez eux. Et du coup, ils vont le raconter au propriétaire de la boîte aux lettres. Sachant qu'en amont, on leur a fourni le kit du spectacle, qui est un kit composé de pas mal de cartes postales, de petites brochures publicitaires, de lettres, d'enveloppes. Et donc, avec tout ça, nous, on les guide pour raconter leur voyage. Mais eux vont vraiment voyager, parce que quand on les guide, il y a des liens Internet, des reportages sur les pays qu'ils traversent, tout ça. Donc, ils sont quand même, ils ont une grande liberté, quoi. Il fallait un trajet qui en camping-car soit un petit peu cohérent, quoi. Et on voulait pas forcément des pays dits classiques touristiques, parce que l'idée est d'avoir des pays qu'on connaît pas forcément, qu'on a une image un petit peu juste un peu l'image des médias qu'on connaît pas. L'idée c'est aussi d'être dans l'imaginaire, de se projeter, d'essayer de se projeter. Je raconte quelque chose à quelqu'un qui, et je ne sais même pas si cette personne, je la connais pas, donc je ne sais pas comment elle va le recevoir. Pendant un mois, on va choisir une boîte aux lettres, on va raconter au propriétaire de cette boîte aux lettres, on va lui fournir un carnet de voyage en fait. C'est des cartes postales, donc ça nous intéressait d'être aussi dans un format assez réduit. C'était cette idée de se dire, bah, de toute façon là en ce moment, même si on avait envie de rencontrer le public, de toute façon on peut pas puisqu'on a aucun accès à eux, quoi. C'est pas possible de regrouper des gens nulle part, donc c'est pas possible. Et dans la discussion, à un moment est arrivé le fait que le seul lien qu'on pouvait avoir avec le public actuellement, c'était leur boîte aux lettres. Et de cette idée de boîte aux lettres, c'est arrivé petit à petit cette idée de voyage.
À la fin de l'aventure au printemps, une rencontre sera proposée entre les participants pour découvrir aussi son correspondant secret. Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page Facebook du Pôle Culture du Pays de Cran ou envoyez un mail à e.leclerc@paysdecran.fr. Vous avez jusqu'à dimanche. Le froid touche encore plus les personnes sans domicile qui peuvent heureusement être accueillies à Laval à la porte ouverte. On en parle dans quelques minutes, le temps d'écouter The Request de King Crab.
That I can dance with blue, but today feels like a special day. I didn't plan what's coming my way. She claims her soul walking with our love. She has waited so long for the words to come. She claims her soul walking with our love. Over and over, over and over again. Wait a minute. No joke, no, no, I was really gonna have a stroke. Thought she was expecting it, coming went.
c'était King Crab avec The Request sur l'autre radio. Vous écoutez toujours l'agité du local. Et vous le savez, dans le département, le plan grand froid veille renforcée a été déclenché. La nuit prochaine, le thermomètre devrait approcher les moins 5 degrés. Et dans ce contexte, le rôle de la porte ouverte est encore plus important. Créé il y a 3 ans à Laval, l'accueil de jour a étendu ses horaires de 10h à 17h30 pour permettre aux personnes sans domicile de rester au chaud. Rouaïda Ayash est la coordinatrice de la porte ouverte.
La porte ouverte, c'est le lieu d'accueil de jour à Laval. Donc on fait de la mise à l'abri d'urgence. On est présent pour les personnes qui sont sans domicile fixe ou mal logées. On est ouvert du lundi au dimanche de 10h à 17h30. On est 140 avenue Pierre de Coubertin à Laval.
Et donc en général, il y a combien de personnes que vous accueillez chaque jour à peu près ou chaque semaine? Je ne sais pas ce qui est le plus représentatif.
Alors en ce moment, donc il ne faut pas oublier qu'il y a un nouveau contexte hein, qui est lié à la Covid. Donc, on n'accueille plus comme on accueillait il y a un an. Donc, on est limité en place hein, pour des raisons sanitaires. Donc, on ne doit pas accueillir plus d'une quarantaine de personnes en même temps dans la structure. Donc, on doit compter. Quand on arrive à 40, on doit stopper cet accueil le temps que les personnes présentes à l'intérieur puissent accéder à certains services. Et on essaye de faire un turnover comme ça, donc tout au long de la journée. C'est un accueil qui est inconditionnel. On peut venir, comme on est, hein, comme on peut dire. Et puis, c'est une petite croix qu'on fait à l'entrée et on accède après au service qu'on propose, nous, ici, que ça soit prendre une douche, aller au sanitaire, pouvoir se restaurer, se réchauffer, laver son linge, on a une laverie, la bagagerie pour pouvoir poser ses affaires. Et aussi, le service qui est proposé, c'est mon travail donc, autour de la coordination, donc accueillir les personnes quand elles arrivent et pouvoir au mieux les orienter, car l'objectif à chaque fois est de pouvoir les sortir le plus vite possible de la rue.
Donc, est-ce que ça veut dire que vous voyez souvent quand même les mêmes personnes ou il y a une sorte de roulement?
Ah non, on a un roulement. Hein. On a des personnes qui sont là par leur situation, ils font qu'elles sont bloquées pendant un moment. Ça touche beaucoup les personnes qui peuvent ne pas avoir de droit, donc ce qu'on appelle les migrants. Eux peuvent, ça peut durer parfois un peu plus longtemps, parce que pour des raisons administratives, ils sont un peu plus bloqués ici. Et tout ce qui concerne le droit commun, donc les personnes qui ont des droits en France, là, il y a déjà un peu plus de passage. Et puis on a aussi les permanents, bien sûr. Mais on a toujours quand même un petit turnover.
Le fait que justement vous soyez obligé de limiter à une quarantaine de personnes, est-ce que ça laisse entre guillemets beaucoup de personnes dehors, devant la porte ouverte justement, ou ça va, vous arrivez à peu près à gérer?
Non, on arrive toujours à gérer parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a toujours une catégorie de personnes fumeurs ou alors qui vont faire plus d'allers-retours parce qu'il y a des petites démarches à faire. Ça arrive quand même, surtout là en ce moment avec le froid, qu'on puisse être un peu plus sollicité. Mais on arrive toujours quand même à trouver un arrangement pour que ça se passe au mieux et au plus vite hein, pour pouvoir mettre les personnes à l'abri. Mais il y a des jours où ça peut être un peu plus compliqué. Il y a des matins où ça peut être plus compliqué. Les après-midi, c'est relativement plus modéré. Mais l'accueil le matin au réveil, c'est là où on est plus que vigilant parce qu'entre ceux qui ont dormi sur les accueils de nuit, ceux qui sont plutôt dans des squats, ceux qui sont dans les voitures, les mal logés, ceux qui ont des logements mais qui n'ont ni accès à l'eau, ni à l'électricité, ni au chauffage. Nous, sur l'accueil de jour, on regroupe toutes ces personnes-là. Ceux qui sont logés chez des marchands de sommeil, donc qui n'accèdent pas à certains services, juste à aller dormir et se lever le matin et repartir. Donc nous, on a vraiment toutes ces personnes qu'on accueille en journée. Donc forcément, le compte peut monter un peu plus vite. Et surtout quand il fait froid. En fait, ça favorise en tout cas de brasser un peu plus de monde sur ces périodes-là.
Et c'est vrai que là, typiquement, bon, on le voit aujourd'hui, il commence à neiger, il fait plus froid, il va faire même très froid là cette nuit et les prochains jours. Oui. Pour vous, forcément, vous vous préparez à encore plus de monde. Comment est-ce que vous vous arrangez avec cette situation?
Alors nous, on va peut-être pas accueillir plus de monde, on va dire, que là, depuis quelques jours. C'est vrai que ça faisait déjà quelques jours, il commençait à faire quand même froid. Et là, ça s'est accentué. Où on va être surtout vigilant, c'est que toutes ces personnes qui sont mal logées, on va être personnellement, on va être un peu plus vigilant sur ces personnes-là. On a des personnes qui dorment dans des voitures ou dans des camping-cars ou des choses comme ça, qui n'ont pas forcément de chauffage. Ça va être autour de ces personnes-là ou dans les squats où on va être plus vigilant. Donc, on fait bien attention de leur demander s'il ne manque rien, s'ils ont des couvertures de survie, s'ils ont bien des couvertures, qu'ils fassent bien attention, voilà, à ne pas consommer certaines choses qui pourraient les faire partir en hypothermie. C'est plutôt avec ces personnes-là qu'on a travaillé aujourd'hui, où on a accentué encore la veille sur eux en leur disant de ne pas hésiter à composer certains numéros s'ils sentaient, voilà, qu'à un moment c'était un peu difficile. Voilà, on a distribué des petites couvertures de survie. Ils ont eu besoin d'eau, on a rempli des jerrycans d'eau, voilà, on a rempli des thermos. C'est plutôt des actions comme ça où on va, voilà, approfondir un peu plus sur les personnes qui sont vraiment mal logées. Parce qu'après, les personnes qui sont logées sur des lieux d'accueil de nuit vont forcément avoir les services sur place. Ils auront les professionnels qui seront sur place pour les aider, avoir l'accès à de la boisson chaude ou autre. Alors que les mal logés, ça devient plus compliqué quand tout est fermé. Surtout avec le couvre-feu à 18h, ça complique encore plus les choses.
Est-ce que ça veut dire qu'après 17h30, du coup, ces personnes-là, forcément, voilà, si elles ne vont pas ni à la halte de nuit, ni à
exactement,
un autre centre d'accueil, se retrouvent, bah, doivent se débrouiller en tout cas.
Voilà, voilà, à devoir se débrouiller. Et à 18h, comme tout est fermé, elles ne vont pas pouvoir aller chercher un café emporté quelque part, ou si elles ont froid, ou voilà, tout ça, c'est terminé assez tôt. Donc elles se retrouvent sur leur logement à eux d'urgence. Hein. C'est un choix personnel, certes, mais qui se respecte aussi. Hein. Tout le monde n'a pas envie de partir dans les structures pour des raisons personnelles. Et certains ont des animaux de compagnie, d'autres ont très mal vécu des expériences dans des lieux d'accueil d'urgence, préfèrent rester et garder leur liberté. Tout ça, ça se respecte. Mais en effet, pour moi, en tout cas, ce sont ces personnes où il faut être un peu plus vigilant, parce qu'elles ont moins accès, en tout cas, au chauffage, elles ont moins accès à de la boisson chaude. Elles sont un peu plus en danger, en tout cas, quand il fait froid.
Et est-ce que c'est pas un peu frustrant pour vous de vous dire que, enfin, déjà, vous faites beaucoup, mais c'est un accueil de jour, donc c'est vrai que pour toutes ces personnes-là, vous espérez, avec ce que vous avez fait, par exemple, aujourd'hui, vraiment de remplir les thermos, etc., mais de se dire, on peut faire ça, ce qui est déjà beaucoup, et en même temps, on peut faire que ça pour ces personnes-là.
C'est vrai qu'on pourrait se dire ça, mais après, voilà, on se dit, nous, on a accompli une autre mission, voilà. On est là en journée, 7 jours sur 7, hein, de 10h à 17h, qui est une très grande amplitude horaire, hein, à 17h30. Et c'est vrai qu'on est obligé à un moment de se dire, voilà, de se mettre des limites, parce que c'est sûr que psychologiquement, quand on rentre le soir et qu'il fait froid comme ça, on ne peut pas ne pas penser à eux. Nous, on voit des visages, on voit pas, c'est pas des numéros, c'est pas des chiffres, c'est pas des pourcentages. On connaît leurs prénoms, on sait où ils habitent, on sait où ils logent. Voilà, il y a forcément un aspect humain qui prédomine, en fait. Hein. Donc, on a toujours une petite pensée quand on arrive, voilà, à la maison, de se dire, bon, bah, j'espère que, voilà, il y a bien la couverture de survie. Ou... Et le lendemain, on attend de façon un peu, voilà, impatiente de les voir passer ce portail et de se dire, bon, bah, c'est bon. Voilà. Il a réussi à gérer cette nuit, ils ont réussi à faire. Mais en apportant en tout cas tous ces conseils en journée, on a en tout cas ce sentiment d'avoir quand même accompli quelque chose, d'avoir quand même donné voilà, le maximum qu'on pouvait nous donner ici. Après, voilà, on peut toujours faire plus, mais voilà, malheureusement, voilà, il y a des limites à tout aussi. Mais on essaye en tout cas de donner de notre maximum en journée, et de surtout essayer de donner les bons conseils et de distribuer les bons numéros et de rappeler les numéros d'appel voilà, d'urgence gratuit et des conseils en tout cas de mise à l'abri simples, efficaces pour leur santé et pour leur bien-être.
Et parce que j'imagine justement que vous travaillez aussi avec la halte de nuit, le 115 ou d'autres structures peut-être ?
Oui, bien sûr, nous on a un petit peu, on va dire, les yeux et les oreilles ici, parce que les personnes qui viennent, elles viennent toute la journée ici, donc on les connaît vraiment très bien. Certains viennent là depuis plus d'un an, donc on est un peu, certains appellent la porte ouverte leur maison, parce que c'est le lieu d'accueil en journée où ils vont passer leur quotidien. Il y a des liens qui se tissent, hein, sur le quotidien, donc c'est vrai que on travaille beaucoup avec les autres structures, parce qu'on a ce temps qu'on passe avec les personnes accueillies qui est bien plus long, qui est voilà, 7 heures par jour avec eux. Et du coup, c'est plus facile de pouvoir après les orienter vers les bonnes structures pour les aider au maximum, et dont le 115 pour tout ce qui est logement d'urgence. Il y a plein d'autres structures avec qui on travaille, bien sûr, le Secours populaire, Emmaüs, la Croix-Rouge, le secours catholique. On travaille vraiment avec toutes les associations présentes, le CCAS, et j'en oublie, mais on travaille vraiment avec tout le monde. C'est vraiment un pôle central, parce que l'idée, quand une personne arrive ici, en tout cas, après avoir proposé tous les services qu'on pouvait proposer pour qu'elle garde sa dignité et donc l'accès à des droits fondamentaux, c'est aussi trouver le moyen de pouvoir la faire sortir au plus vite de la rue ou en tout cas de cette situation de précarité, que ça soit avec un mal logé ou à la rue ou dans des conditions particulières. En tout cas, nous, l'idée, c'est de très rapidement se rapprocher d'autres structures, de très vite évaluer la situation. Et c'est ça qui est important. C'est là que le carnet d'adresses, et on voit qu'il est très large, et on travaille même avec l'ASE, avec toutes les structures qui peuvent exister, en tout cas dans autour de nous, pour très rapidement faire sortir cette personne de sa situation, ou au moins lui donner les clés de départ.
Vous rappeliez que vous avez donc une grande amplitude horaire. C'était pas forcément le cas avant. Pourquoi avoir fait ce choix ?
Alors, c'est pas forcément évident d'avoir cette amplitude horaire, parce qu'il faut trouver des bénévoles. Je suis l'unique professionnelle sur le lieu d'accueil du jour. Ensuite, on travaille qu'avec des bénévoles. Il en faut beaucoup par jour. Et on est sur un créneau où les personnes sont actives généralement, parce que c'est en journée, donc les personnes travaillent. On travaille du coup beaucoup avec des personnes qui sont des travailleurs avec des horaires décalés, soit des personnes à la retraite. La Covid est arrivée entre deux. Les personnes à la retraite sont des personnes un peu plus exposées, plus fragiles, en tout cas liées à cette maladie. Donc on a eu une pénurie à un moment, mais on a voulu quand même maintenir ce flot et se dire non, en fait, il n'y a pas... stopper à 16h l'accueil de jour, qu'est-ce que les personnes font entre 16h jusqu'à que la halte de nuit ou les autres lieux d'hébergement ouvrent, c'est pas avant 18h, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller errer du côté de la gare, elles vont se retrouver avec des contrôles fréquents où il va y avoir des problèmes parce qu'elles s'assoient là où les voyageurs viennent, les enfants ne savent pas où partir, donc ils courent un peu dans le hall de la gare, ça les met dans des situations qui sont pas forcément confortables pour eux, ni pour nous, mais on a réfléchi à comment on pouvait faire, c'était pas si facile que ça, mais on a réussi en tout cas à faire en sorte de pouvoir ouvrir cet accueil du jour plus longtemps pour les mettre à l'abri plus longtemps, pour éviter de se retrouver dans des situations qui les stigmatisent encore plus, en tout cas. Et pour ça, on a élargi les horaires. Et lié aussi au couvre-feu, parce que un couvre-feu à 18h, on disait, si 17h30 on ferme, le temps qu'ils partent à la halte de nuit, il reste pas grand-chose, ils seraient pas longtemps dehors, en tout cas. Depuis le deuxième confinement, on avait déjà changé nos amplitudes horaires pour les mettre à l'abri le plus longtemps possible, parce qu'au deuxième confinement, ils faisaient leur confinement de jour ici, pour certains, ceux qui étaient sans domicile fixe. Et ceux qui étaient à la halte de nuit, vu que ces structures étaient fermées en journée, leur confinement de jour se faisait à la porte ouverte. C'était nous qui les confinaient ici. Donc forcément, on avait augmenté l'amplitude horaire jusqu'à 17h30 pour qu'ils puissent partir ensuite à la halte de nuit, qui ouvrait à 18h. Comme ça, ils n'étaient pas à l'extérieur pendant le confinement. On a maintenu cet horaire depuis, et parce qu'on a réussi à ce moment-là à se mobiliser pour le faire, et on a réussi à pouvoir le maintenir. Lié en plus après, entre deux, le couvre-feu est arrivé, le froid, donc c'est des horaires qu'on aurait maintenus. Quoi qu'il se passe, en tout cas, on serait revenu à ces horaires-là, mais on s'était adapté à cet horaire depuis le deuxième confinement. Il faut veiller que dans chaque salle, il y ait le bon nombre, tout le temps, que les personnes ne se mettent pas en danger en ayant la distanciation sociale. Le port du masque... Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses à prendre en compte maintenant liées à la crise sanitaire. Donc, ça demande beaucoup de personnes, entre ceux qui s'occupent de la cafétéria, ceux qui s'occupent de la laverie, de la bagagerie, des services, la désinfection. Nous, on a tout un protocole qui a été mis en place, qui est assez lourd, mais qui permet de garantir la sécurité de tous.
Là, on y pense plus parce que nous, on a froid, en quelque sorte. Mais au final, c'est un peu la situation classique l'hiver et même peut-être plus généralement toute l'année.
C'est ça. En fait, c'est vrai que nous, on se rend compte que les personnes pensent un peu plus à nous souvent quand il fait très froid ou quand il fait très chaud. Mais pour nous, en tout cas, une situation, leur situation ici reste urgente toute l'année. Voilà. Moi, je vois pas trop de différence, en tout cas, durant toute l'année. On essaye de maintenir la même vigilance. La seule vigilance qu'on peut avoir de plus, en tout cas, quand il fait très froid comme ça, comme quand il fait très chaud, c'est lié à leur santé. C'est de faire attention, voilà, qu'ils puissent ne pas se retrouver en danger, parce que ça apporte quelque chose de plus précaire encore. Mais ça relève encore plus des inégalités, en tout cas, de ceux qui ne peuvent pas avoir accès aux énergies, voilà, au chauffage, à des lieux voilà, salubres, en tout cas. Donc, mais autrement, en tout cas, nous, pour nous, le travail reste le même toute l'année. Voilà, on reste dans l'urgence toute l'année, parce que c'est un peu les urgences de la précarité. C'est quand on a tout perdu, qu'on n'a plus rien, qu'on vient sur le lieu d'accueil du jour parce qu'on se retrouve sans domicile fixe. Donc les urgences, c'est tout le temps.
Et pour aider au bon fonctionnement de l'accueil de jour, pour devenir bénévole, n'hésitez pas à appeler au 07 67 75 36 05 ou à envoyer un mail à coordinatrice@gmail.com. Et si vous voyez quelqu'un qui dort dehors cette nuit ou dans les prochains jours, il faut appeler le SAMU social au 115. On revient d'ici quelques minutes après Pyjama avec leur morceau In the Air.
Do you hear the sound of the rain among the leaves in the air? Take a minute longer, have a break, and I believe that you will find. Keep some space inside you.
Pyjama avec In the Air sur l'autre radio. Vous écoutez toujours l'agité du local et c'est l'heure du feuilleton de Claire au studio vidéo de Laval cette semaine. Et tu nous promets un épisode chargé d'émotions aujourd'hui, Claire.
Et oui, à la suite du visionnage de Laval Rétro de 1920 à 1980 hier, nous passons au Lavallois dans la Seconde Guerre mondiale, un film chargé d'émotions car elle retranscrit les témoignages de 50 Lavallois. Mais je ne vous en dis pas plus, je laisse Stéphane Piau nous commenter sa réalisation.
Donc c'est parti, il faisait 53 minutes, petit clin d'œil à la Mayenne. On me demande souvent
quel film sur les 8 films historiques me plaît ou me dissuade le plus, c'est sans doute celui-ci, qui est chargé d'émotions parce que, je vous dis, il y a une richesse incroyable d'images, de photos, de vidéos, de cartes postales de la Seconde Guerre mondiale. C'est aller au-delà de mes espérances. Et puis, il est bonifié par le témoignage des 50 témoins à Levallois.
Il y a les épouses, il y a les enfants qui veulent voir leur père partir, puisque beaucoup, quand même, étaient des résidents à Levallois, bien que Laval était beaucoup plus petit que maintenant.
Vous pouvez le voir, on voit des images actuellement de soldats partant à la Seconde Guerre mondiale qui a été filmé par un cinéaste amateur qui filmait le départ de son fils. Donc c'est fabuleux de revoir ça, quoi. Et on est au départ à la gare et là ils montent dans les trains et ils partent à la guerre. Et pour certains, ils n'ont jamais revu leur fils, leur père, leur frère. Donc forcément, c'est très touchant. Et donc on va, ces 50 témoins que l'on peut voir et entendre dans le film, on va avec 3-4 témoins à chaque fois dans les classes, ils vont nous raconter tout ce qu'ils ont pu vivre. Et on va aussi avec des historiens du service patrimoine, les collègues du service patrimoine de la ville de Laval, qui viennent rajouter un plus sur l'historique et l'histoire de la ville.
Ils sont restés quelques jours à la maison.
Petit clin d'œil, on vient de voir Madame Bongard, qui est une témoin de Seconde Guerre mondiale. Vous avez vu comment elle s'exprime bien. C'était mon ancienne prof de maths au collège des Fourches, je l'ai retrouvée par hasard. Et donc maintenant, on ne se lâche plus, elle m'accompagne souvent dans les écoles, donc c'est assez marrant. Là, ce qu'ils sont en train de vous expliquer, les témoins à Levallois, c'est que c'est en ce moment donc, l'invasion allemande. Donc les rues de Laval, ils sont en train d'expliquer que ce n'était pas facile, quoi. Ils mitraillaient les trains, il y avait une pénurie de denrées, ils avaient du mal à trouver à manger. Donc Madame Pelon est attachante aussi, elle vient souvent m'accompagner dans les écoles. Donc là, ce sont des photos de son école où on les voit manger à la cantine dans les réfectoires. Pratiquement au témoignage, à chaque fois, il y a une image à coller dessus et ça, c'est très très rare.
Pouvez-nous nous raconter la bataille quand les Américains...
Donc là, on a fait une reconstitution avec une association WW2. On a fait venir des véhicules américains habillés en tenue américaine. Ils étaient donc à l'école de Grenou et on a reconstitué comme si on était à la libération des Américains.
Et on sait que ça battait dur.
Et donc là, les enfants sont en train de poser des questions aux 3 témoins lavallois qui étaient à Grenou et qui ont vécu l'arrivée des Américains. Moment fabuleux. Surtout que ça fait donc 4 ans qu'il a été réalisé et je ne vous ferai pas de dessin. Forcément, ce sont des gens qui avaient déjà, à l'époque, 90-100 ans et la plupart, hélas, nous ont quittés.
Vous savez, l'absence de mon père, pour moi, c'était terrible. C'était encore plus terrible que je m'étais rendu compte que beaucoup de mes copains, leur père n'était pas prisonnier. Pourquoi ? Pourquoi eux n'étaient pas prisonniers et le mien l'était ?
Le plus grand souvenir pour moi, c'était d'arrêter mon père dans sa peau pensée. Et ça passe toujours pas.
Donc comme vous pouvez le voir, c'est chargé d'émotions. Là, il racontait qu'en fait, à la Seconde Guerre mondiale, ils sont venus chercher son papa, il ne l'a jamais revu. Donc forcément, ça touche beaucoup, quoi. On a tissé des liens très forts et c'est vraiment une belle aventure humaine qu'on en a vécue à travers ces témoignages. Ça restera toujours gravé à vie.
Un moment très émouvant, donc on retrouve demain Stéphane pour nous expliquer ses missions au sein du studio vidéo municipal, notamment autour de la transmission et de la mémoire.
Merci Claire de nous faire entendre ces archives si intéressantes et si touchantes, surtout aujourd'hui, on l'a bien entendu. On va passer aux initiatives avec toi. C'est l'heure donc de cette rubrique. Ces quelques jours avant la Saint-Valentin sont chargés justement, encore une fois, d'initiatives.
Et oui, toute cette semaine, plein d'idées à l'occasion de la Saint-Valentin et on continue aujourd'hui avec l'initiative de la région, c'est l'opération Mayenne Je T'aime. Le principe, acheter auprès de vos commerçants et artisans locaux sur la plateforme Ma Ville Mon Shopping jusqu'à ce dimanche, à la clé 10 euros offerts par le département pour tout achat minimum de 30 euros en entrant le code Mayenne Je T'aime, donc je t'aime, vous avez compris le jeu de mots, tout attaché sur le site maville-mon-shopping.fr.
Donc c'est bientôt la Saint-Valentin ce dimanche, mais on pense aussi et déjà au 21 juin du côté d'Entrammes.
Et oui, pour organiser cette journée, on l'espère remplie de concerts et de festivités, la commission d'événements et de communication du conseil municipal des jeunes d'Entrammes recherche des artistes. Pour ça, rien de plus simple, vous pouvez vous inscrire grâce à un formulaire en ligne. Il y a à remplir notamment votre temps de prestation, votre style musical, si vous avez besoin de matériel et si vous pouvez aussi joindre des fichiers sons. Ce formulaire est disponible sur le site de la ville d'Entrammes.
Et oui, parce qu'on espère quand même qu'en juin, on pourra faire la fête de la musique. Merci Claire. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et non, donc toujours sur le nom du compte avec l'autre radio. Hein, on n'a pas fait très compliqué. Le répondeur aussi pour y laisser vos initiatives ou vos idées, vos messages au 09 70 40 59 40. Merci beaucoup Claire, à demain.
Merci Marie, merci tout le monde et à demain, j'espère toujours sous la neige.
Alors, on espère ou non, je ne sais pas. Sous la neige, je ne sais pas, on va voir si ça fond aujourd'hui. Peut-être avec du verglas demain matin, on verra bien, on vous en parlera demain midi. Mais en tout cas, évidemment, les émissions se poursuivent à l'antenne. À 19h, il y aura Novorama, suivi à 21h de Tarn's Jazz Hour. Et nous, on se retrouve demain, bien entendu, à la même heure, c'est-à-dire à partir de 12h15. Très bonne journée.
L'agité du local.